Radio Caravane.
Radio Caravane. De l'ombre des coulisses
à la lumière de la piste.
Radio Caravane.
Bonjour à tout le monde, vous êtes sur Radio Caravane. Nous recevons au studio Caroline Aubin, qui est artiste clown plasticienne et qui fait partie de l'Apprenti Compagnie. Bonjour Caroline, comment vas-tu ?
Ça va super, je suis contente d'être ici.
Super. Peux-tu nous préciser les pronoms que tu utilises ?
Plutôt elle, a priori. Mon fils dit Yel quand je suis en clown, donc j'ai appris que j'étais Yel. Voilà.
Voilà, bah, c'est noté. Peux-tu nous parler de ton parcours et de l'histoire de l'Apprenti Compagnie ?
Alors, mon parcours, il est assez simple. C'est que j'ai toujours voulu être clown, que j'ai commencé à 9 ans parce que j'étais dans une école expérimentale. Mes parents étaient hippies. On faisait du théâtre beaucoup à l'école et j'ai pris le rôle d'un clown un jour et j'ai fait rire le public. Et ça a été une sensation incroyable. Et à ce moment-là, je suis rentrée chez moi et j'ai dit « je serai clown ». Et je n'en ai plus jamais démordu. Donc voilà, mon parcours s'est fait autour de ça. Il y a eu une petite période à l'adolescence où ça faisait pas super sexy de dire qu'on allait être clown. Donc, j'ai fait du théâtre pendant ce temps-là. Mais l'idée, c'était toujours de prendre des rôles un peu comiques, quoi. Genre Puck, genre Scapin, voilà. Puis après, j'ai repris du service en clown. Donc, j'ai fait beaucoup de stages parce que c'est comme ça aussi qu'on se forme en clown. Il n'y a pas vraiment d'école de clown. Alors maintenant, il y a le Samovar qui existe à Paris. Mais à mon époque, ça n'était pas le cas. J'ai fait des études théâtrales à la fac. Et à côté, je travaillais le clown et le théâtre en professionnel. Et puis, je suis tombée sur un clown qui avait fait le CNAC. Donc, je suis devenue une knackie, c'est-à-dire que j'ai fait le Centre National des Arts du Cirque. En tant que clown, ce qui était assez inhabituel, parce qu'il n'y a pas du tout de formation clown à la base pendant le CNAC. Il a fallu batailler les deux premières années pour avoir une formation. Et là, j'ai été formée par François Cervantes et Catherine Germain, qui sont un peu des masters of clown in France. Et après cette formation au CNAC et avec François et Catherine, j'ai monté une compagnie, donc l'Apprenti Compagnie, en 97. Donc, ça commence à remonter loin. Et le seul objectif, c'était de comprendre ce qu'était le clown à travers des voyages exploratoires, autant physiques que dans des disciplines des arts différents, comme la musique, les arts plastiques, le milieu humain. J'ai vraiment travaillé dans plein d'endroits différents en ayant comme objectif de comprendre ce que c'était que ce machin bizarre que le clown et surtout de grandir le territoire possible pour le clown.
Comment définir le travail d'artiste clown plasticienne ?
Alors ça, pour ma part, c'est lié quand même à un moment donné où j'ai dû choisir entre les arts plastiques et le clown, où ça a été un choix vraiment difficile. J'ai fait une année d'architecture au milieu de tout ça, parce que j'étais vraiment intéressée par les arts plastiques et par la construction, la réflexion sur l'espace, etc. Et du coup, pendant mon parcours de clown, puisque j'ai choisi d'être clown, j'avais toujours une espèce de tendance à faire toujours des petits trucs en art plastique, mais qui étaient toujours dans un monde un peu parallèle, parce qu'il n'y avait pas de sous. Donc, je faisais un calendrier... Tous les 3 ans, avec des photos mises en scène en clown. Je faisais des scénographies, mes scénographies en clown. Je construisais mes costumes, etc. Et un jour, j'ai fait des enfants. Donc, dans le parcours d'une femme, c'est assez intéressant parce que ça pose ça impose un rythme, moins de transport, etc. Et donc, j'ai un peu réfléchi à comment continuer mon métier d'artiste, ma recherche en bougeant moins. Et donc, les arts plastiques sont venus s'imposer à moi à ce moment-là, où je me suis dit, je vais en faire mon centre pendant un certain moment, le temps que mes enfants sont en bas âge. Donc, j'ai repris des études en arts plastiques pour travailler sur le clown dans le domaine des arts plastiques. Et ça a été vraiment pour moi une vraie révélation de découvrir tout le vocabulaire des arts plastiques qui je trouvais qui correspondait beaucoup mieux au métier de clown que le vocabulaire du théâtre en fait, parce que le clown c'est un artiste performeur plus que un comédien qui a un rôle et qui va changer de rôle Faut savoir que le clown, voilà, on se le trimballe toute une vie, en fait. Donc, ça devient presque un être à part entière. Les gens qui viennent voir Proserpine, qui est le nom de mon clown, ils viennent voir Proserpine. Ils s'en foutent un peu du spectacle qu'ils viennent voir. Ils viennent voir un être à part entière, comme on viendrait voir voilà, un artiste, quoi. Donc, il y a un truc très intéressant déjà à ce niveau-là, avec les arts plastiques. Et puis, ce qui m'a intéressée, c'était de voir comment le clown, comme bricoleur artistique, comment il a une manière de créer différente de la mienne en tant qu'artiste. Donc, quand je donne un stylo à ma clown, un tableau à ma clown, une sculpture à faire, une motte de terre à ma clown, elle va pas s'y prendre de la même manière que moi en tant qu'artiste. Et ça m'a vraiment intéressée. Ça m'a montré que le clown utilisait un peu une autre partie du cerveau, un peu plus profonde. Je parle souvent du dessous de l'iceberg, en fait. Okay. Voilà. Et donc, ça, dans le domaine des arts plastiques, c'était vraiment intéressant à utiliser, mais aussi de travailler sur tout le transdisciplinaire. Donc, de voir comment le clown qui commence à faire du montage vidéo, par exemple, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça ouvre comme forme innovante pour les arts plastiques ou pour le clown. Voilà, et comment, petit à petit, j'ai perçu ce clown comme un territoire avec des champs disciplinaires très, très différents et où, en fait, il pouvait aller partout, quoi.
Ouais.
Il peut même devenir agriculteur, finalement, le clown.
Ouais, c'est intéressant, cette notion un peu de... comme un deuxième personnage, une deuxième personnalité. Mm-hmm. Ça doit être une sorte de refuge aussi, ça, potentiellement.
Ouais, plus qu'un refuge, quoi. C'est vraiment une ouverture.
Une deuxième vie, même, carrément.
Une deuxième vie, ouais. C'est-à-dire que le clown, pour moi, il est vraiment salvateur dans ce qu'il m'a proposé d'ouvrir dans mon esprit, dans mon corps, dans mon émancipation de moi-même en tant qu'identité sociale, en fait.
Pour cette nouvelle édition de Créatrice, tu as proposé le spectacle Homo Suivant avec le collectif Les Enchantreurs. Peux-tu nous présenter ce collectif ?
Alors, Les Enchantreurs, à la base, c'est un collectif de vieux clowns avec lesquels je travaille depuis de longues années, où on a mis en place des dispositifs de clowns en milieu humain. On se propose comme service à la personne, en tant que clown. Comment le clown peut se mettre à disposition du monde, qu'il soit dans l'espace public, en rencontrant une personne, et comment il peut... par exemple, on avait organisé à un moment donné un cabinet de consultation, mais c'est des clowns qui consultent. Donc, quand une personne arrivait, on lui demandait « Qu'est-ce qui vous amène, madame ?» Et à partir de la réponse de la personne, on proposait des soins, qui pouvaient être des soins philosophiques, qui pouvaient être palliatifs, des soins. Ça pouvait vraiment être... tout était prétexte à improviser autour de ça. Et on a fait un projet, par exemple, qui s'appelait les 777. On était 7 clowns dans 7 familles pendant 7 jours. Donc ça, c'était vraiment un dispositif performatif où on s'intègre dans une famille et de voir comment la présence du clown va changer toute notre vision de notre quotidien de par son décalage, en fait. Donc voilà, ça c'est le collectif des Enchantreurs qui réfléchit sur la place du clown quand il sort de l'œuvre et qui va en milieu humain et comment il propose, il devient un terrain de jeu, une proposition de faire les choses autrement, donc qui ouvre aussi des voies alternatives à nos habitudes, donc qui sont très intéressants aussi politiquement, comment on peut... par notre côté absurde, en fait, ouvrir la réflexion sur voir des horizons différents, sortir des impasses habituelles, des habitudes restrictives, etc. Donc ça, c'est le collectif des Enchantreurs. Et là, avec Homo Suivant, j'ai invité 5 artistes, jeunes artistes que j'ai formés au clown pistellaire, qui est la méthode que je propose depuis, que je cherche, que je travaille depuis une vingtaine d'années, puisque je suis aussi pédagogue.
Le clown pistellaire,
c'est ça ? Le clown pistellaire, alors c'est un mot que je viens de poser il y a un an, en disant, bon, il faut poser un mot pour parler de ce mouvement, c'est un mouvement en clown. Donc c'est aussi pour dire qu'en clown, il y a un peu des chapelles, des manières de voir le clown différent. Tout clown a un peu tendance à dire moi je suis clown, mais l'autre il est pas vraiment clown parce qu'il fait pas comme moi. Il me semble qu'aujourd'hui on peut parler plus de mouvement en clown et donc de façon de faire un peu différente. Chacun peut faire du clown à sa façon. Le fait de le nommer déjà permet de dire bon, c'est pas la seule façon, il y en a plein d'autres, c'est juste un mouvement. Et le clown pistellaire, c'est une méthode qui vient du cirque, donc de la piste. Comment le fait d'être entouré de gens à 360 degrés va imposer des codes de jeu très spécifiques qui ne sont pas les mêmes qu'en frontal. Et comment ça va former une manière d'être en clown extrêmement différente qu'en frontal, qui est une manière qui se rapprocherait d'une cosmologie du vivant, c'est-à-dire qui serait pas de jouer avec le monde, mais qui serait d'être le monde et de le regarder à l'intérieur de soi. Donc d'incarner les choses dans lesquelles on est, donc de pas exploiter, mais d'être les choses pour voir qu'est-ce qu'elles sont à l'intérieur de soi. Il y a aussi tout le travail sur la transformation, de comment s'effacer socialement pour pouvoir se rencontrer de nouveau, différemment, plus grand, enrichi de tout son dessous de l'iceberg, justement. Donc pas juste le petit morceau qui est visible socialement, avec son genre, avec son milieu social, avec son âge, etc. Mais de pouvoir s'enrichir de tout ce qu'on est, de tout l'amoncellement des choses qu'on est, dont des choses végétales, dont des choses animales, dont des choses anciennes. Voilà, comment toutes nos cellules sont finalement porteuses d'informations beaucoup plus riches que le petit bout qu'on laisse voir quand on est dans notre position sociale, en fait. Donc voilà, ça, c'est le clown pistellaire. Et donc, j'en reviens à Homo Suivant, ce collectif qui invite 5 autres clowns, jeunes clowns, donc, que j'ai formés et avec lesquels on réfléchit à une création. Donc, ce qu'on a présenté le 9 avril n'était absolument pas un spectacle, mais une sortie de résidence, et surtout la première sortie de résidence d'un travail qui va se faire sur 3 ans, de réflexion sur une possible transformation d'un homo sapiens en un homo suivant. Comment il semblerait opportun de se poser la question de la transformation et de pas essayer de changer le monde, mais plutôt de se transformer nous pour pouvoir vivre le monde différemment. Voilà.
C'est génial, cette interview déconstruit absolument l'image que j'avais du clown. Je découvre tout un univers.
Mais on fait aussi des proutes, hein, vous inquiétez pas.
Homo Suivant est un drag show de clown. Au-delà de l'art du drag avec les queens et les kings, qu'est-ce que le drag clown? En quoi les clowns sont des drags?
Alors, c'est un peu la question qu'on s'est posée. On n'a pas vraiment les réponses. Donc, c'était vraiment une résidence de recherche sur le drag clown en se disant, le monde du drag s'est emparé du clown pour créer une branche dans le drag qui, il me semble, remet encore plus en question la question du genre pour aller vraiment vers des créatures qui soit, parce que le clown, c'est un être totalement artificiel. On pourrait dire que le clown, finalement, c'est un extraterrestre. Il ressemble à rien de ce monde. Il n'a pas les mêmes couleurs, il n'a pas la même consistance, les formes sont différentes, etc. Donc, je pense que le clown a apporté ça au drag, cette possibilité d'aller encore plus loin dans la transformation. Et une autre question, c'était qu'est-ce que le drag, du coup, peut nous apporter et comment nous, on s'en emparerait. Et ce qui a semblé vraiment intéressant, c'est comment il nous a autorisés en tant que clown à nous déconstruire encore plus, c'est-à-dire à aller vers des formes plus hybrides qui soient entre l'artiste et le clown. Si on enlève le nez, par exemple, on garde tout le maquillage, mais on enlève le nez, ou on enlève juste le chapeau, il y a nos cheveux de femme qui arrivent, mais ce maquillage reste très présent et donc devient finalement un maquillage plus rituel qu'un maquillage de clown. Donc de voir un peu toutes ces couches de transformation et comment ça proposait de nouveaux territoires pour le clown. Voilà, et après, c'était vraiment une recherche et absolument pas un spectacle, je le dis encore, parce qu'en une semaine, on ne fait pas une recherche sur le drag clown qui soit, d'un point de vue théorique, vraiment sérieuse. C'était un prétexte pour nous pour travailler sur cette histoire de transformation de Homo sapiens en un homo suivant, à travers un thème qui met en jeu beaucoup la question de la transformation, en fait. Et donc, on a vu des personnages aussi chez nous, en se transformant, voilà, qui allaient vers le freak, des clowns qui ont pu trouver des endroits de leurs clowns extrêmement enrichis de ce drag clown, en fait.
Faut-il une esthétique queer pour être drag clown ?
Alors, pour être clown, de toute façon, il faut une esthétique queer. C'est complètement queer. Le clown est queer, mais totalement. C'est-à-dire que quand j'étais justement dans les arts plastiques à l'université à faire mon master 2, là, j'étais à relire tout le processus de formation d'un clown. Ça correspond complètement à la réflexion de l'esthétique queer sur justement remettre en question l'identité sociale, s'émanciper de soi-même. Et c'est totalement queer aussi, parce que le clown, déjà, est une figure masquée, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre ce que je suis, moi, Caroline, et un maquillage qui change l'architecture de mon visage, mais qui est fusionné. Donc, c'est quand même un bout de moi qui est filtré différemment, en fait, qui me donne et qui donne au spectateur un nouveau goût de moi-même, et il est question de semer le trouble, donc de vraiment chercher à aller vers une vision beaucoup plus complexe de la personne, beaucoup plus entière de la personne, et donc bizarre, queer, désarçonnante par la transformation du clown, la transformation de la voix, qui est, quand on me dit par exemple « mais ta voix, ça doit être difficile de la tenir », je dis « non, en fait, ma voix de clown est ma vraie voix ». La voix que j'utilise maintenant n'est pas ma vraie voix. La voix que j'utilise maintenant est totalement restreinte par rapport aux possibilités, à la liberté que j'ai quand je pars dans la voix de mon clown. En revanche, si je commence à parler comme mon clown maintenant, c'est extrêmement bizarre pour une femme de mon âge, tu comprends ?
Tout à fait.
Tu vois, ça tout de suite, t'es un petit peu gênée comme ça. Là. Tu vois, donc c'est ça le côté queer du clown. Mmh. En fait, comment notre corps, nos émotions devraient imposer des choses à nos cordes vocales, mais automatiquement que l'on restreint pour pas être chelou, quoi.
Oui, c'est ça. L'art du drag permet de déstabiliser les normes, de bousculer les genres. L'art du clown peut-il en faire de même ?
Alors, l'art du clown, dans l'histoire du clown, il a été pendant très très longtemps question de brider en fait le côté genré du clown, en disant « c'est un être qui n'a pas de sexe ». Voilà, le clown n'a pas de sexe, on ne parle pas de sexe. Et dans les années 80, quand le clown est revenu à la mode, sorti du cirque, en fait, il a commencé à avoir des femmes clowns. Alors, il y en avait pas mal, finalement, au début du XXe siècle. Elles ont été totalement invisibilisées. Il y a un tableau de Chahukao, de Toulouse-Lautrec, donc d'une clownesse. Mais en fait, quand on regarde des journaux, on voit qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de clowns femmes que l'on pourrait croire quand on lit l'histoire des clowns. Mais de toute façon, il y avait quelque chose qui était où le genre était totalement mis de côté, en fait. Même ma prof de clown, Catherine Germain, et François Cervantes, ils parlent du clown comme un ange. Donc, il n'aurait pas de sexe, quoi, quelque part. Pour ma part, il est plus question de dire que le clown peut avoir tous les genres et peut changer de genre à foison. Il est effectivement un yel totalement ouvert, mais il est toujours question de sexe et c'est quand même le moteur de la création. Il est quand même à cet endroit-là, quoi. Même s'il est transcendé dans des énergies, dans des symboles, etc., il est évident que le sexe reste très présent dans le clown, à mon sens.
C'est presque le yel ultime, finalement, le clown.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. De toute façon, c'est toujours d'ouvrir des territoires, ouvrir des nouveaux territoires. Pour moi, en tant que personne, pour moi, en tant qu'artiste, mais surtout pour la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une impasse totale, avec l'ère du capitalisme, qu'on trimballe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Je pense que les religions monothéistes ont amené clairement au capitalisme et à l'exploitation. Et on en vient à tout cet en burn-out total de nous-mêmes qui s'exploite, qui nous exploitons nous-mêmes en plus du monde. Et pour moi, l'acte politique, on va dire, du clown, du drag clown, c'est toujours d'ouvrir des territoires, quoi, des territoires du possible. Le clown et le drag clown, on va dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté artificiel. de ces personnages ou du mouvement dans le drag, qui amène quelque chose de l'ordre de la fiction, de l'impossible, et donc d'un terrain où il y aurait une autorisation, puisque c'est impossible, puisque c'est une fiction, alors c'est sans conséquence. Et donc c'est un endroit où on a le droit, le temps d'une représentation avec un public, d'ouvrir des territoires qui pourraient sembler absurdes, qui pourraient sembler transgressifs, qui pourraient sembler impossibles, mais qu'on ouvre, qui donne la possibilité à préparer les esprits à autre chose que l'impasse ou la dystopie dans laquelle, à laquelle on nous prépare, sérieusement.
Le personnage que tu incarnes depuis une vingtaine d'années est Proserpine. En quoi ton personnage est-elle une extension de toi-même ou au contraire un exutoire total ?
Alors c'est vraiment pour moi un endroit de moi-même, c'est totalement moi-même, mais comme je le disais, c'est vraiment le dessous de mon iceberg. C'est-à-dire que l'idée du clown, c'est de pouvoir retourner son iceberg et dire, et si je montrais toute l'autre partie, la partie invisible, la partie qu'on laisse au placard, qu'on refoule. Ce qui est différent justement du drag, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du clown qui est de prendre tout ce qu'on est, ce qu'on veut être, mais aussi ce qu'on ne voudrait pas être, tout ce qu'on est, et de voir que en fait on peut le traverser avec goût si on se dit que c'est un paysage. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c'est de voir que je suis un paysage. Tes yeux sont pas bien capables de voir la profondeur du paysage, toutes mes profondeurs dans mon paysage, parce que tes yeux, ils sont tellement restreints par ma place sociale.
J'ai pas les bonnes lunettes aussi.
T'as pas les bonnes lunettes, mais personne n'a les bonnes lunettes, et moi non plus. Je peux pas savoir tout ce que tu es en te regardant comme ça, avec ta casquette, tu vois. J'imagine plein de choses qui sont sûrement totalement erronées. Et le clown, c'est l'autorisation, grâce à une forme rassurante pour moi-même, parce qu'elle n'aura pas de conséquences sociales, donc je peux tout à fait perdre la face, c'est pas grave, en clown, hein, et rassurante pour l'autre, parce qu'il va peut-être être face à la monstruosité, mais il ne va pas en mourir, je ne vais pas le mettre mal à l'aise, parce qu'il n'y aura pas de conséquences sociales non plus à notre lien. Je peux le déstabiliser sans que ça soit un problème. Donc il y a comme un contrat qui se joue grâce à cette forme du clown rassurante, qui n'est pas totalement rassurante, hein, elle fait peur aussi, la figure du clown, mais en tout cas, elle est une autorisation de dire bah, pendant ce temps-là, on pourrait retourner l'iceberg. Donc pour moi, voilà, Proserpine, c'est vraiment moi plus, quoi.
Si Proserpine pouvait parler à ton toi hors scène, que dirait-elle ?
Ouh, elle dirait... elle serait pas sympa, je crois. Elle lui dirait... elle lui dirait, bah, t'es vraiment une grosse coincée, toi. T'es toujours en train d'essayer de m'empêcher. T'es toujours en train d'essayer de passer des messages politiques. Moi, j'en ai rien à battre. J'ai juste envie d'être libre. Donc, ferme ta gueule et laisse-moi vivre. C'est ça qu'elle dirait, Proserpine, je crois. Mais d'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que moi, en tant qu'artiste, la seule chose que je peux faire, c'est poser des post-it dans la loge. Et Proserpine, elle s'en empare comme elle veut après. Mais de toute façon, elle fera toujours les choses qu'elle désire. J'ai plus grand-chose à faire. Entre Proserpine et le public, et les décisions du public, de ce qu'eux veulent voir de Proserpine, moi, perso, j'ai pas beaucoup de place. Et c'est tant mieux.
Y a-t-il des figures du clown ou du drag qui t'inspirent particulièrement ?
Bah, y a beaucoup de figures... de figures du clown... on est souvent fan de ce qu'on n'arrive pas à être ou de ce qu'on n'est pas. Ou... Moi, j'adore les clowns qui sont hyper précis... Charlie Chaplin, par exemple, c'est un clown que je trouve génialissime de par tout le côté politique qu'il a et puis toute la technique corporelle, la précision du jeu, le fait d'avoir fait du cinéma, voilà. Là, je travaille avec un artiste qui s'appelle Auriol Pla. Bon, lui, c'est le Graal, quoi. Lui, il n'a pas besoin de nez, il n'a rien besoin de, comme transformation pour... se mettre dans des états émotionnels complètement dingues, physiques, complètement fou. Oui, c'est une liberté totale. Donc, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup, beaucoup. Dans le drag, j'aurais du mal à dire... je serais plus attirée par des artistes contemporains comme Cindy Sherman, qui a fait tout un travail sur le clown, mais du coup sur des espèces de drag clown où elle s'est transformée... ou Bruce Nauman, qui fait un travail sur le clown très agressif, que j'aime beaucoup aussi dans les artistes contemporains. Donc je dirais plus que je suis attirée par ça.
Tu proposes aussi un stage de floun le week-end du 26 et 27 avril. Mmh. En quoi cela consiste ?
Alors là, c'est Serge, le directeur de la grainerie, qui m'a demandé de faire un stage amateur, ce que je ne fais jamais d'habitude. En revanche, dans mon travail, je travaille beaucoup sur la transformation, donc par le maquillage, rituel, mais aussi le maquillage du clown. Et j'ai eu envie de voir comment le fait de se flouter, donc de se transformer, donc de disparaître pour apparaître autrement, pouvait être un terrain de jeu avant la pratique du clown pur, qui, elle, est extrêmement exigeante et une technique pas forcément complètement ludique au début, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais qu'à cet endroit-là, il pouvait vraiment y avoir un terrain de jeu qui fasse découvrir des facettes de soi, des terrains inexplorés.
Pour finir, as-tu des réseaux, des sites où on peut retrouver les actus et prochaines dates ?
Alors, ben, j'ai un Instagram qui doit être Proserpine, qui doit s'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Un Facebook, Proserpine Prose. Il y a un site qui s'appelle lesenchantreurs.com. Et puis un autre site qui s'appelle carolineaubin.com. Je suis en train aussi de monter un organisme de formation dans lequel je propose des stages professionnels à Carcassonne, donc tout près d'ici. Et là, il y a un site qui doit être Formation Caroline Aubin ou Caroline Aubin Formation, un truc dans le genre.
Super. Eh bien, merci encore, Caroline.
Avec plaisir. Merci à vous.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Médias Communs et Yves Assam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Il et elle couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.